Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI, bien sûr. Et aujourd'hui, dans l'actualité du football, nous avons un personnage avec une Coupe du Monde, deux championnats de France, une Coupe de France et une Coupe de la Ligue, 41 buts en championnat, 10 buts sous le maillot des Bleus. Sa précocité fascine, son humilité étonne, sa sympathie séduit. Kylian Mbappé a 20 ans aujourd'hui. Il fait rêver ses fans et les amoureux du ballon rond. Lui dit vivre son rêve éveillé dans les pages du Parisien. Aujourd'hui, bonjour Dominique.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Sa route est-elle déjà toute tracée? Où le mènera-t-elle? C'est ce dont nous parlerons dans Radio Foot. Un bras de fer qui va durer entre Adrien Rabiot et son club formateur. Le milieu de terrain ne veut pas prolonger son contrat au PSG. Les mesures punitives à son encontre ne le feront cette fois pas changer d'avis, dit son entourage. Mais ira-t-il au Barça? Eh bien, nous poserons la question à François David qui est à Barcelone. Un livre pour passer la trêve des confiseurs, pour les amoureux du football qui pourraient ne pas s'en passer. Un livre édité par Solar, le footballeur allergique à la neige et 365 autres histoires extraordinaires du football. Bonjour Jean-Philippe Bouchard.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors, c'est certaines anecdotes connues, d'autres moins connues, certaines récentes, d'autres anciennes.
C'est parce que le football n'est pas qu'un sport et pas seulement un jeu, il y a toute une cohorte d'histoires avec.
N'est-ce pas? Eh bien, on y reviendra sur ces histoires. Et puis alors, nous accueillons aujourd'hui dans Radio Foot, où nous réaccueillons, c'est un mot que j'invente à l'instant, mais pour le personnage, ça en vaut le coup, Gilles Verdez, bonjour.
Bonjour.
Alors, nos auditeurs sur la page Facebook sont ravis que vous reveniez. Ça fait combien? 3 mois que vous n'étiez pas venu ici?
Ça fait 3 mois. Le plaisir est partagé et hop, je me suis dit là, c'est trop long, je veux revenir. Donc, je vous ai dit je veux revenir et vous m'avez accepté, ça c'est gentil.
Voilà, on va s'arrêter. Nous aussi pour la trêve des confiseurs, mais j'espère que vous reviendrez après, parce que sinon, ils nous demandent des comptes après, nos auditeurs et nos internautes. Bon, puis le réfé est là, bonjour Alejandro.
Je suis là, et Gilles m'a promis de revenir pour les 30 ans dès qu'il y a une date.
Oh ben alors, est-ce que nous serons là? Est-ce que j'aurai encore de la voix? Parce que décidément, c'est compliqué ces temps-ci. Radio Foot, c'est parti.
T'as pas de... T'as l'âge ou t'as pas l'âge? Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Donc c'est quelque chose, c'est la seule chose, je pense, où j'étais intransigeant.
Le 20 décembre prochain, tu vas avoir 20 ans. L'année prochaine, tu pourrais encore prétendre à gagner ce trophée de jeune espoir. Mais j'imagine que ton objectif prochain, c'est de soulever le ballon d'or.
Non, mon objectif prochain, c'est de tout soulever.
Attention. Mbappé, la frappe de Mbappé.
Parce que c'est important de fêter comme il se doit. On n'a pas le temps de rester à glander comme on dit.
Une fois que j'aurai tout remporté, j'espère, là, quand on me demandera de courir, je dirai c'est bon.
Et oui, il y a seulement 20 bougies sur son gâteau, et même s'il ne mesure qu'un mètre, 78, Kylian Mbappé est déjà un géant dans le monde du football et des réseaux sociaux, où il aura sans nul doute, eh bien, lire beaucoup de messages qui lui souhaiteront aujourd'hui un très joyeux anniversaire. 24 millions de suivers sur Instagram et 2 millions et demi sur Twitter. L'avenir lui sourit à ce très jeune champion du monde qui brûle les étapes depuis son premier match en Ligue 1 le 2 décembre 2015. Il a disputé son 150 match professionnel contre Orléans il y a 2 jours. Des stats qui lui permettent d'être comparé déjà aux plus grands joueurs qui l'ont précédé en France, Zidane, Henri, Platini ou encore Coppa, mais aussi Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldo le vrai, Maradona, Cruyff ou encore Pelé, le roi Pelé qui l'a semble-t-il adoubé, qui semble s'être reconnu en lui. Alors, que lui souhaiter à Kylian Mbappé en 2019, lui qui est déjà connu grâce à la Coupe du Monde de 2018, Dominique?
Bah, je pense que s'il veut remporter le ballon d'or, pour l'instant il franchit les marches 3 par 3, hein, 7e, 4e, donc s'il veut finir premier, Il faut qu'il y ait absolument.
Ce sera pas en 2019 donc.
Bah il faut aussi, il faut qu'il gagne la Ligue des Champions quoi cette saison, parce que bon les titres domestiques ne changeront rien. Il n'y a pas vraiment de compétition internationale. On est sur les qualifications de l'Euro pour la zone Europe. Donc voilà, il faut qu'il gagne rapidement la Ligue des Champions pour devenir encore plus important.
Gilles.
Alors c'est un phénomène. À mon avis d'ailleurs, c'est le début d'un nouveau cycle, c'est-à-dire que je voyais par exemple en tennis de table, le nouveau champion, il a 15 ans. On aura de plus en plus de sportifs précoces à cause du gabarit qui change, de la formation, des filières.
Encore que Pelé avait gagné la Coupe du Monde, il n'avait pas 18 ans,
absolument.
Lui il les avait déjà.
Mais c'était une exception parmi les exceptions. Donc à mon avis, Mbappé c'est non seulement un personnage formidable, mais le précurseur d'une nouvelle ère. On aura des champions, on aura un ballon d'or qui aura 16-17 ans dans 10 ans. On en reparlera avec le réfé, si on est encore tous les deux
je
là.
Je pense pas,
mais
Gilles.
Voilà. Mais voilà, Mbappé pour moi, il va au-delà de Mbappé lui-même. C'est-à-dire que c'est le nouveau prototype du sportif moderne.
Jean-Philippe ?
Non, je suis pas tout à fait d'accord. En fait, il y a quand même eu un talent qui a été poli pendant des années hein, dans les meilleurs centres de formation, enfin ça c'est sûr, mais il est hors norme, c'est une exception. On voit bien que dès qu'il prend le ballon il se passe quelque chose, il va plus vite que tout le monde, il est vraiment complètement hors norme. Le fait qu'il soit effectivement très jeune il contribue à sa célébrité.
Alors qu'est-ce que vous lui souhaitez pour son anniversaire là?
Ah bah de surtout pas se faire manger par les petits cochons, parce que il a déjà beaucoup d'amis, il va avoir énormément de sollicitations, de tentations, et il a déjà gagné la Coupe du Monde, qui est une sorte de Graal pour un footballeur. Donc il faut, en fait, ce qui fait la différence entre les grands champions et les légendes, et c'est ça qui doit briguer maintenant.
La légende.
Ouais, c'est de rentrer dans la légende du sport, parce qu'il en a le talent, et ça c'est son exigence à lui qui fera la différence, c'est sa volonté. S'il se satisfait de ce titre de champion du monde et peut-être de quelques titres avec le PSG, et qu'il se regarde vivre, il n'ira pas au-dessus.
Le seul frein à sa progression, c'est pas les petits cochons pour moi, ça sera la blessure. Voilà, c'est le seul,
et
ça c'est imprévisible.
Oui.
Sauf qu'on sait aujourd'hui beaucoup mieux gérer la prévention des blessures, et ça participe aussi d'une volonté, d'une hygiène de vie. C'est aussi quelque chose qui se gère.
Alejandro, qu'est-ce que vous lui souhaitez, vous?
Moi, je lui souhaite...
Parce qu'il commence à briguer, non seulement avec Pelé, mais avec Maradona, dans la légende footballistique.
Mais disons que c'est un enfant prodige. Après, le problème des enfants prodiges, c'est bien grandir et de devenir des adultes prodiges. Et c'est pas automatique. Moi, parmi tous les joueurs, les grands joueurs que vous avez cités, c'est lui qui m'évoque le plus des similitudes avec Mbappé, c'est Ronaldo, le Brésilien, qui avait un peu le même gabarit, la même façon de démarrer et de tout entraîner sur son passage.
Mais les genoux n'ont pas tenu.
Et on sait qu'il a eu des problèmes de blessures, et il a eu aussi des problèmes des gestions de sa vie privée également, qui ont contribué probablement à ces blessures ultérieures. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut que Kylian Mbappé apprenne à bien gérer. C'est bien parti, mais rien n'est garanti.
Tout le monde n'est pas le gendre idéal comme les Messi, n'est-ce pas, Alejandro?
Oui, parce que dans le jeu, c'est vrai qu'il mise énormément sur l'explosivité. Vitesse de course, mais explosivité. Et ça, c'est compliqué à entretenir. Effectivement, il faut être à l'abri de la blessure éventuelle, qui quand même, après, pour un joueur avec ses caractéristiques, peut vous empêcher de revenir à 100%. Et puis, gestion de sa condition physique. Quelqu'un, par exemple, comme le Ronaldo, alors pas le vrai, le faux Ronaldo, si vous voulez, le Ronaldo portugais, lui, il a su garder cette longévité, il a su se préserver physiquement en s'entretenant. Et ça demande des efforts colossaux.
Ce qu'on peut dire quand même peut-être aussi, Dominique, c'est qu'il a quelques lacunes à combler, Mbappé.
C'est ça qui est terrible.
Non, peut-être que c'est sa chance aussi, parce que s'il y a 20 ans, il avait déjà tout. On le voit, par exemple, évoluer au côté de Neymar. C'est vrai que, par exemple, les deux derniers matchs de Ligue des Champions, on a vu plus Neymar que Mbappé, même si Mbappé ne démérite pas, c'est pas le problème. Mais on voit qu'il a des choses à améliorer, notamment c'est un contre un face au gardien. Il y a des choses comme ça.
Son replacement.
Voilà, il a encore des choses, finalement,
à
apprendre.
Bien sûr, jeu de tête, qui n'est pas très performant. D'ailleurs, Pelé lui conseille de l'améliorer. Il y a son efficacité, son réalisme, effectivement, et puis son repli défensif. Alors ça, bon, il sait que c'est pas une... il sait qu'il peut le faire, mais il ne le fait pas vraiment.
Est-ce que vous l'avez vu s'améliorer depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain? Ça fait un an et quelques mois, et aux côtés de Neymar en plus.
Moi, je trouve qu'il a étoffé son jeu, parce qu'il jouait plutôt dans l'axe à Monaco avec Falcao ou avec Germain, mais plutôt avec Falcao. Et là, au Paris Saint-Germain, il utilisait plutôt sur un côté ou sur tous les postes de l'attaque, devant, avec Cavani, sur un côté gauche, sur un côté droit. Donc, je trouve qu'il a étoffé son jeu. Et puis, c'est un joueur mentalement qui ne sort pas de ses matchs, puisqu'il avait raté 4 grosses occasions contre Lyon pour marquer après un quadruplé. Donc ça, il y a beaucoup de joueurs à 20 ans qui seraient un petit peu découragés. Un Moussa Diaby, par exemple, qui a à peu près le même âge que lui aujourd'hui, qui joue au Paris Saint-Germain, bon bah quand il rate quelque chose pendant 10 minutes, un quart d'heure, il gamberge, il réfléchit à ça, il disparaît du match. C'est pas le cas de Mbappé.
Mbappé peut gagner quand même aussi en régularité sur une saison ou sur le suivi des matchs, parce que il a encore,
il marque,
c'est normal, hein, il est très jeune.
Un demi-but par match, voilà, il marque un but tous les deux matchs.
Il a des matchs où il passe un peu, où il est vraiment soudainement en dessous, donc il y a des hauts et des bas, ce qui est absolument classique à son âge, mais en termes de concentration et d'intensité dans un match, il peut sûrement progresser encore là-dessus.
Gilles ?
Après, pour devenir le plus grand, est-ce qu'il ne faut pas lui souhaiter de quitter le PSG ? Parce que je veux bien qu'il soit obligé de gagner la Ligue des Champions pour être Ballon d'Or, mais s'il gagne la Ligue des Champions, il ne sera pas Ballon d'Or, ce sera Neymar le Ballon d'Or. Ou alors, ça fera un tel clash que ça explosera en 2 mois, parce que Neymar, là, pour le coup, s'il gagne la Ligue des Champions avec le PSG et qu'il n'est pas Ballon d'Or, là, alors, c'est une révolution. Il s'en va au mercato hivernal prochain en disant « je claque tout, c'est impossible pour moi ». Donc je ne sais pas si Mbappé peut être Ballon d'Or au PSG tant que Neymar sera là.
Et il a une autre marge de progression qui est d'être le leader de l'équipe, justement, puisque Neymar aujourd'hui est le leader du Paris Saint-Germain. En équipe de France, on attendait plus Griezmann cet été que Mbappé. Donc un jour, ces joueurs-là ne seront plus à côté de lui, parce que ils ont 6 à 7 ans de plus que lui, donc c'est mécanique, et puis il va changer l'équipe aussi. Donc voilà, un jour il sera le Messi de Barcelone, il sera le Neymar actuellement du PSG, le Cristiano Ronaldo des années Real ou de la Juve. Et donc voilà, est-ce que ça aussi il sera passé le cap d'être l'homme sur qui tout repose?
En fait, ça va se faire dans les 6 mois qui viennent, c'est-à-dire que très probablement le PSG se construira autour de Mbappé, oui. Ou sans Mbappé, ou avec Neymar, mais enfin ça sera l'un ou l'autre.
On peut garder
très,
les deux, c'est
très
ça.
Facile,
pourquoi?
Très rapidement, parce que ça sera compliqué à gérer de toute façon, à la fois en termes de personnalité et même de statut
d'argent,
parce que évidemment
ils sont bien outillés pour l'instant.
Il va y avoir beaucoup de monde autour de
et puis
ce
si le PSG n'est pas champion d'Europe cette année, à mon avis on va avoir du mal à garder quand même l'effectif tel qu'il est.
Alejandro, dans quel club pourrait-il? Parce qu'on dit que ça, c'est ça aussi qui est important, c'est bien gérer une carrière, et des fois des choix de carrière qui finalement font oublier les joueurs ou le personnage, ou qui presque les font rétrograder dans leur niveau. Est-ce que quel club pour vous serait à la hauteur des espoirs, je dirais pas seulement du talent, mais des espoirs ou de la carrière de Mbappé?
Je pense que tout le monde a en tête le Real Madrid.
Il est en plus un fervent supporter.
Il a toujours, depuis tout petit, voulu évoluer au Real Madrid. Donc, il me semble que c'est un peu le destin le plus logique.
Plus le Real que le Barça?
Je pense que le Real a quand même les moyens financiers et peut-être aussi l'ADN d'accueillir des grandes stars internationales comme ça, qui n'est pas grandi au club et qui n'est pas forcément été façonné au style Barça.
Et lui donner l'étoffe de
Je pense que, en toute logique, ce serait plutôt le Real.
Surtout que le Real a besoin de reconstruire un projet d'avenir pour les 5 années ou à venir, puisqu'il est arrivé un peu à la fin d'un cycle l'année dernière, et il a besoin d'une figure de proue pour ce projet-là. Et on pouvait penser il y a 6 mois que ce serait Neymar après une case PSG qui était nécessaire pour passer du Barça au Real. Ça sera peut-être Mbappé, en fait.
Gilles. Parce que c'est vrai que pour tous ces joueurs-là, leur destin est corollaire d'un club. Cruyff, l'Ajax, alors bon, Maradona, peut-être un tout petit peu moins.
C'était un autre temps aussi, parce qu'il y avait peut-être plus de choix de clubs.
Messi, Barcelone, Ronaldo au Real, ils ont tout gagné avec un club. Et ils se sont identifiés à un club qui a joué pour eux. Donc il faudra effectivement, comme disait le réfet, que Mbappé trouve ce club-là. Et ça va pas être évident, parce que c'est pas, pour revenir sur ce que disait Dominique, là, on n'est pas seulement sur des caractéristiques footballistiques, c'est aussi une personnalité. Tous ces joueurs-là dont on parle, ils ont aussi marqué le football parce que c'était des chefs sur le terrain en dehors. Et là, Mbappé, pour le moment, Effectivement, il est jeune, mais c'est pas encore ça.
Mais et Dominique, après... que le Real alors?
Ben non, le 31 août 2017, quand il a signé au PSG, le dernier incertitude, c'était qu'il y avait un avion au Bourget de Barcelone qui attendait pour éventuellement le faire signer à Barcelone. C'est un club parce que par l'amour du jeu, et ça, ce qu'il a Mbappé, c'est au centre de ses préoccupations. Ouais. C'est dans quelle équipe je joue. Par exemple, dans l'équipe de France, il prend pas un plaisir démentiel. Il est champion du monde, mais c'est pas le style de jeu prôné par Deschamps. Le pragmatisme qui le séduit le plus. Il a envie d'être dans des équipes qui jouent. Je pense qu'un jour, il aura envie d'être entraîné par Guardiola, ou que soit Guardiola. Je pense qu'il aura aussi envie d'aller à Barcelone parce que c'est l'ADN du jeu. Et après, le Real Madrid, évidemment, parce que c'est l'autoproclamé plus grand club du monde. Stars. Voilà, mais après, comme je sais plus qui l'a dit, mais il y a énormément de reconstruction. Sergio Ramos va passer la main. C'est-à-dire, dans quel Real tu arrives s'il n'y a plus Modric, s'il n'y a plus Sergio Ramos, s'il n'y a plus Casimiro, il n'y a déjà plus Cristiano Ronaldo, Benzema à 31 ans depuis avant-hier, parce que hier c'était l'anniversaire de Benzema.
Et il faut qu'il y ait un entraîneur aussi voilà. Qui donne envie.
Donc c'est pour ça, moi je pense que les choix c'est Barcelone, le Real Madrid et Guardiola, ou que soit Guardiola. Après si Guardiola il va pas retourner au Bayern Munich, mais il faut que ça soit aussi un club attractif, et Manchester City l'est.
En tout cas, dans un domaine où il a aussi peut-être à progresser, Kylian Mbappé, eh bien, c'est quand il a quelques erreurs de jugement et que peut-être dû à sa jeunesse, il persiste et il signe.
Il y a eu certainement un mauvais geste de Savanier, et Kylian Mbappé qui va se faire exclure. Oui. Ça ternit cette fin de rencontre.
Si c'est à refaire, je le referai et je m'excuserai auprès de tous les supporters et de tout le monde, mais moi je ne peux pas tolérer ce genre de geste. La même faute où il y a intention de jouer le ballon, il n'y a pas de problème. Il n'y avait aucune intention de jouer le ballon là, on l'a tous vu, donc voilà, mais bon, c'est pas grave. J'irai me rendre à la commission et j'irai me défendre.
Alors là, il n'a pas 19 ans quand il dit ce genre de propos. Il est très gamin, il est très provocateur et il s'est pris 3 matchs à la suite de cette rencontre face à Nîmes.
Peut-être plus parce qu'il a dit, là, que vous avez passé, que parce qu'il a fait. Un champion du monde ne devrait pas dire ça. Il faut évidemment être maître de ses nerfs, de ses propos. Après, c'est pas hyper grave. C'était le problème, c'est qu'il avait aussi un rouge en début d'année, en janvier à Rennes. Donc c'était le deuxième. Donc la commission a dû se dire, bon, 2 à 19 ans. Vieira, Zidane, on finit à 14, on va mettre un haul là quand même.
Ouais. Bon, donc c'est pas très grave, Alejandro.
Non, c'est pas très grave, c'est pas en tout cas le plus grave pour lui.
En tout cas, lui, dans l'avenir, en 2038, il a osé donner une date, même, eh ben, il se voit entraîneur. Il est passionné par le terrain et il dit qu'il ne voudrait jamais quitter le terrain.
Rares sont les génies du foot et on espère qu'il va continuer à l'être, qu'ils ont réussi à.
Ouais, être des grands entraîneurs.
Voilà.
Mais il y en a pas mal quand même maintenant, ça commence. Et bien voilà, bon anniversaire à Kylian Mbappé.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Le divorce est-il consommé entre le PSG et la direction, en tout cas, et Adrien Rabiot? Et bien c'est ce qu'il semble se dessiner, on va dire, ces dernières heures, après les commentaires du directeur sportif Antero Henrique. C'était au tour hier, et bien, du camp Rabiot de s'exprimer par la voix de Véronique Rabiot, la maman s'y présente aux côtés du milieu de terrain parisien, de son fils. Pour elle, vous allez l'entendre, la décision de partir est définitive.
La situation était la même il y a 4 ans. On dit toujours que la situation est compliquée avec nous. Je vois pas en quoi elle est compliquée. C'est très simple. Adrien veut partir. Le club ne veut pas le laisser partir. Mais tout le monde le sait dans le monde du football que ce sont des pratiques qui ont lieu. C'est le joueur ne joue plus pour qu'il signe sa prolongation. À l'époque, Adrien avait 19 ans. Il n'a pas résisté. Donc, il a signé une prolongation. Aujourd'hui, il en a 23. Et ce qu'il fait aujourd'hui, il achète sa liberté. Voilà. Il achète sa liberté.
Il achète sa liberté. C'est aussi simple que ça, Dominique ?
C'est très compliqué, hein, parce que il y a eu tellement de communication depuis quelques jours autour de ce bras de fer entre le club et le joueur, que l'avis initial qu'on peut avoir sur ce dossier, il peut changer aussi. Aujourd'hui, de toute façon, les choses sont un petit peu irréversibles. Ceux qui détestent Rabiot, bon, vont continuer à le détester. Et ceux qui trouvent que le club pratique de manière un peu scandaleuse la politique,
le chantage,
voilà,
la signature.
On trouvait que c'est tout à fait dans les méthodes du PSG Qatar. Donc voilà, c'est un conflit classique, mais le PSG quand même un spécialiste des conflits. Ouais, avec les joueurs, il y avait
Ben Arfa. Quand même rappeler les enjeux, c'est que on a un joueur qui sera en fin de contrat, donc libre au mois de juin prochain, et qui a une valeur marchande qui est entre 20 et 30 millions d'euros. Quand
Oula,
même,
il y en a qui disent beaucoup plus. Oui, hein, non, Philippe.
En étant libre, c'est-à-dire que cet argent-là pourrait arriver sur son compte en banque à lui, alors que si il est transféré, c'est de l'argent qui est échangé entre clubs. Donc l'enjeu pour Rabiot, il est assez important en termes de prime à la signature, par exemple. Mm-hmm. C'est ça change tout.
Aujourd'hui, dans les négociations, il est de 20 millions d'euros. Tous les clubs avec lesquels il négocie, Tottenham, Barcelone, Arsenal, le PSG, c'est 20 millions. Pour signer dans le club, lui, il va signer.
Voilà. Donc l'enjeu, il est très important. Donc s'il est prêt, lui, à ne plus jouer pendant 6 mois, parce qu'il sera sanctionné, ce qui, d'ailleurs, par ricochet, mettrait le PSG en faute, parce que ils ont quand même un salarié qui doit faire travailler.
Ils ont fait Ben Arfa.
Voilà. Donc
oui,
c'est d'ailleurs le syndicat des joueurs.
Ben défend,
oui, parce que là, c'est pas une question de niveau. Hein, c'est vraiment de la sanction disciplinaire. Voilà. Donc il faut quand même rappeler cet enjeu qui. Pour les joueurs, et on le voit de plus en plus souvent, les joueurs qui ont confiance en eux, à tort ou à raison, mais ils vont jusqu'au bout de leur contrat, et puis l'argent échappe au club.
Gilles.
C'est le bal des médiocres. La direction sportive du PSG, tenue par un incompétent, je ne cesse de le dire à votre antenne depuis des mois ou des années, ce directeur sportif qui ne fait que des erreurs, qu'on devrait balayer d'un trait de plume. Je ne veux même pas prononcer son nom, ce serait trop d'honneur. Donc je me demande ce qu'il fait encore là.
C'est Antero Henrique.
Voilà. Et la famille Rabiot qui, de toute la vie sportive du joueur, n'a pensé qu'à deux choses, l'argent et cracher sur l'équipe de France. Donc c'est quand même pas des gens pour moi qui sont extrêmement recommandables. Certes, c'est un bon joueur, mais moi si j'étais un club, en tout cas moi je serais très content qu'il ne joue plus en France, on le verrait moins. Pour moi les deux parties ont totalement tort.
Si on le verra, s'il signe à Barcelone, on le verra quand même, hein, parce que Barcelone c'est une équipe qu'on regarde et qui est une équipe intéressante.
C'est pas des matchs PSG Barcelone.
Après il faudra qu'il joue.
Moi je pense qu'il n'a pas le niveau pour jouer à Barcelone. C'est un bon joueur,
ouais, hein, c'est ça.
Mais voilà, moi je pense qu'il n'a pas le niveau pour aller jouer à Barcelone.
Alors avant qu'on demande à Alejandro son avis, on va quand même demander du côté de la Catalogne. François David, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
François David, est-ce que là-bas on est prêt à dérouler le tapis rouge pour Adrien Rabiot, même si pendant quelques 6 mois il n'aura pas foulé un terrain, ce sera juste entraîné avec les copains?
Bah oui, parce que c'est une opportunité pour le club, un joueur gratuit, international, 23 ans, le Barça fonctionne comme ça, maintenant ils vont prendre des joueurs assez jeunes pour structurer l'équipe pour au moins 5-6 ans. Donc Rabiot rentre tout à fait dans le projet du Barça dans les 5-6 prochaines années, voire 10. Maintenant, c'est vrai que Eric Abidal, le directeur sportif du Barça, le secrétaire technique, pour être plus précis, lui est à fond derrière Rabiot. Ernesto Valverde, beaucoup moins. Et Pep Segura, qui est le manager général du club, lui doute de la capacité de Rabiot à s'adapter au Barça. Moi, je pense qu'il a les capacités pour jouer à très haut niveau, c'est-à-dire Barcelone, Paris, toutes les grandes équipes. Maintenant, c'est vrai que son arrivée ne fait pas l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire du côté des supporters. Oui.
Je voulais demander à Alejandro Valente, notre autre consultant sur le FC Barcelone, s'il le voyait, lui, aller jouer du côté de Barcelone.
Moi, je vois deux arguments en faveur de la venue de Rabiot à Barcelone. D'un côté, de toute façon, ce sera une bonne affaire, parce que même s'il ne s'adapte pas, dans la mesure où ils auront payé quasiment rien pour lui, ils pourront le revendre et faire une plus-value, donc c'est déjà un bon point. Et l'autre, c'est que Barcelone est en pleine reconstruction de son milieu de terrain. On rappelle qu'Iniesta est parti, que Busquets et Rakitic
vieillissent
et commencent à tirer un peu la langue, que Rafinha est blessé, qu'il y a le jeune Arthur qui est prometteur mais qui est très jeune encore, il y a Arturo Vidal qu'ils ont pris mais qui constitue peut-être un joueur un peu provisoire dans le dispositif de Barcelone. Donc on cherche vraiment une pointure pour un poste qui a toujours été très important à Barcelone, celui qu'occupe aujourd'hui Busquets, qui était celui de Guardiola, c'est-à-dire un peu le cerveau qui a la vision du jeu, qui peut jouer court, qui peut jouer long et qui peut donner les tempos. Alors est-ce que Rabiot est celui-là? J'en doute. Mais je pense qu'à Barcelone, on aurait préféré un Pogba ou deux joueurs d'autres joueurs, mais pour l'instant Rabiot est une opportunité et à tout prendre, ce sera de toute façon une bonne affaire financière, donc je pense que, et en plus ça leur permet de se venger entre guillemets du PSG pour l'affaire Neymar.
Je comprends que le football soit un business, hein, mais quand il y a des ça doit pas rentrer en ligne de compte de se dire qu'on peut faire de la plus-value, tout ça. Il faut vraiment se demander s'il colle au projet de jeu, et voilà, et c'est là où je pense que les divergences à Barcelone montrent bien qu'il y a un problème déjà.
Justement, François-David Alejandro parlait de vengeance ou peut-être de revanche, parce que j'imagine que du côté de Barcelone, il y a toujours cette histoire Neymar dans les têtes des dirigeants au moins, et que là, ça serait une occasion de faire un petit coup bas au PSG.
Bah, il y a Neymar évidemment, il y a eu Ivan Rakitic cet été, c'est que le Barça, que le PSG l'approchait de manière forte, Dominique peut le confirmer.
Je confirme.
Bon, voilà, on rentre dans cette logique maintenant de guerre économique, de guerre sportive entre toutes les grandes entités. On va en parler tout à l'heure avec Lucas Hernandez, avec le Bayern de Munich et l'Atlético. Maintenant, Rabiot, voilà, c'est ce que je suis d'accord avec Alejandro, c'est une opportunité. Voilà, c'est ce que je disais, parce qu'il est libre et qu'éventuellement il pourrait le revendre d'ici un an, sachant que le rêve d'Eric Abidal, c'est Pogba et Pjanic de la Juventus. Maintenant, ce sont deux joueurs très chers. Et Rabiot peut apparaître comme une opportunité. Mais je vais simplement finir sur le fait que les supporters, eux, ne veulent pas du tout de Rabiot pour le moment, parce que ils savent ce qui se passe aussi en France. Ils savent ce qu'il a fait avec l'équipe de France. Ils savent ce qu'il a fait durant trois ans avec le PSG de Unai Emery, qui a quand même un contact avec l'Espagne. Un joueur problématique, ils ont déjà un cas avec Ousmane Dembélé, même si les cas sont différents, un autre joueur problématique dans le vestiaire, ce serait compliqué. Et en plus, dernier point, Rabiot bloquerait le passage finalement à un joueur issu de la mafia qui s'appelle Carles Alenia, qui est un jeune joueur qui commence à entrer dans l'équipe et qui a tout à fait le profil d'Adrien Rabiot. Donc bon, je pense moi qu'au final, ils peuvent le faire, je pense même qu'ils vont le faire, mais ça pourrait créer quelques tensions.
Gilles, est-ce que c'est peut-être pas le problème d'Adrien Rabiot ? C'est un peu cette image de joueur à problème.
Oui, mais cette image, elle correspond à la réalité. C'est-à-dire qu'il y a en permanence des négociations. On a l'impression que tous les trois jours, il renégocie son contrat. Une situation avec un agent issu d'une filière matriarcale, c'est jamais simple. Une structure familiale autour de lui, je la conteste pas, mais ce sont des gens qui sont arc-boutés sur leurs intérêts. Alors, ils ont le droit de les défendre, mais ça va... pour moi, parfois contre l'avis de l'institution. Et ça, c'est compliqué. Et à Barcelone, on sait très bien que l'institution, elle est sacrée.
Alejandro ?
Oui, mais moi, je pense, c'est pas pour défendre Rabiot, mais quand même, le PSG n'a pas été non plus très net, parce qu'ils ont confié les dossiers à Antero Henrique, qui plaidait pour un départ du joueur dès l'été dernier. Donc, c'est quand même assez compliqué de demander à quelqu'un qui veut qu'un joueur parte de le convaincre de rester. Et donc, je pense que là, il y a eu un manque de cohérence assez effarant. Du côté du PSG.
On ne quitte pas le Qatar, ça c'est quelque chose que le Qatar ne peut pas supporter, que des, vous savez, parfois les entraîneurs sont retenus à la douane, les passeports sont pris, on retient le...
Moi maintenant, ils ont changé la loi.
Oui, non mais voilà, c'est arrivé ça. Donc c'est un club qui n'aime pas que des joueurs s'en aillent et qui les pousse vers la sortie. Que Matuidi, il est pas parti de lui-même, on l'a poussé dehors. Donc voilà, donc ça aujourd'hui, il y a un affront pour le Paris Saint-Germain qui comme le dit Alejandro, a très très mal géré le cas Rabiot depuis sa renégociation il y a quelques années. Ça aurait dû.
Il semble d'ailleurs qu'il lui ait jamais fait de réelles propositions.
Voilà, donc aujourd'hui, il est en position de force et il en profite. Mais moi, je connais un petit peu la mer, je peux vous dire que ça va être un vrai problème. Vous allez souffrir si elle arrive.
Enfin, parce qu'elle va se sentir. Le père de Neymar qui est.
Oui,
qui
bah alors là, vous allez comprendre que ce sera plus important que la solution
barcelonaise. Il y a quand même une donnée, hein, c'est que. Par exemple, là où il y a un constat d'échec, c'est en équipe de France. Mais en équipe de France, Rabiot avait des prétentions de jouer non pas en sentinelle, mais plutôt au milieu du terrain, enfin, alors qu'il n'a jamais fait un bon match en équipe de France. Donc il y a un moment, il faut s'auto-évaluer correctement quand même par rapport à ses ambitions. Et là, on a l'impression avec ce joueur qu'il y a un décalage entre ce que lui ou son entourage pense de ses capacités et ce qu'il prouve sur le terrain. C'est certes un bon joueur, mais est-ce que franchement, c'est à lui de dicter à son entraîneur la façon dont il doit le faire jouer jouer, je suis pas sûr.
Bah, le PSG s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions dans un groupe difficile, alors qu'il était remplaçant à Naples, remplaçant contre Liverpool à domicile et remplaçant à l'Étoile Rouge pour le dernier match. Donc en plus, l'entraîneur a réussi à trouver des solutions sans lui. C'est quand même pas un joueur, pas l'impression depuis que Matuidi est parti, qu'il est installé régulièrement, qu'il a transformé le jeu du Paris Saint-Germain. On a l'impression qu'on peut être... Je crois que l'équipe de France a réussi à être championne du monde sans avoir Rabiot dans les 23. Il y a quand même des équipes. Il y a des équipes au monde qui ont l'air de jouer sans Rabiot et qui ont l'air de bien s'en sortir. Hein.
Il y a un risque de gâchis. Alors le gâchis sera pas financier, on le dit, parce que le salaire, il y aura prime à la signature, salaire mirobolant, c'est sûr. Mais il y a un risque quand même de gâchis humain et de gâchis sportif, parce que c'est vrai que c'est un joueur qui maintenant est étiqueté, qui est marqué, qui est affiché, comme on dit dans le langage d'aujourd'hui. Et donc, ça va pas être facile pour lui de se sortir de ça.
Et puis déjà 23 ans, partir au Barça, après, c'est vrai que ça, le temps passe vite. François, vous vouliez dire encore quelque chose ?
Bah, surtout qu'au Barça, j'en parlais un petit peu tout à l'heure par rapport à la composition d'équipe et de l'effectif, la seule place disponible, c'est en remplaçant de Busquets, c'est-à-dire en numéro 6. Toutes les places, sinon entre Coutinho, Rakitic, Arthur, Arturo Vidal et Alenia, la seule place disponible, c'est à ce poste-là.
Ouais. Et ce que dit Dominique,
c'est le poste auquel il ne veut pas jouer.
en plus. Ah ouais.
Alors, juste pour terminer sur l'Espagne avec vous, François David, un autre Français est à la une de la presse espagnole depuis hier soir, c'est Lucas Hernandez, l'international champion du monde, lui aussi, très jeune lui aussi, et qui serait prêt à partir au Bayern Munich pour 80 millions d'euros. Apparemment, ça serait presque déjà fait. Est-ce que c'est plausible qu'en plein milieu de saison, l'Atlético et Diego Simeone laissent partir ce Lucas Hernandez qui est maintenant titulaire à l'Atlético, qui est vite devenu titulaire chez les Bleus ?
Bah, il pourrait absolument rien faire parce qu'on parle d'une clause. Hein. C'est le même cas que Neymar avec le PSG. 80 millions d'euros suite à sa dernière rénovation de contrat. C'était il y a un an jusqu'en 2024. Maintenant, on parle d'un joueur qui fait partie désormais de la garde prétorienne de Diego Simeone, un joueur indiscutable à l'Atlético de Madrid et en équipe de France. Je vois, moi, plus ça comme une information filtrée par son agent à Marca, qui est le journal qui a donc lancé cette bombe hier en disant que l'accord était tout proche entre Lucas et le Bayern, et que le Bayern, du coup, allait payer la clause. Mais moi, je vois plus ça comme une tentative de prolonger encore plus son contrat. Il avait prolongé avant le Mondial, son statut a changé aussi en club, et je vois, moi, plus rester que partir, surtout en cours de saison.
Oui, Alejandro.
Bah, tout est possible, bien sûr, mais il faut quand même penser que l'Atlético Madrid a pas mal de problèmes internes depuis la décision d'Antoine Griezmann de rester à l'Atlético Madrid. Vous savez, il a obtenu une augmentation salariale très importante et du coup, beaucoup d'autres joueurs de l'équipe font la tête parce qu'ils estiment qu'il faudrait revoir l'ensemble de la grille salariale de l'Atlético, et l'Atlético n'a pas les moyens de faire une telle chose. Et parmi ceux qui sont le plus dans la protestation ou en tout cas dans la réclamation, il y a Lucas Hernandez qui a un salaire très faible par rapport
après tout, il est champion du monde aussi.
Par rapport à d'autres. Et donc, finalement, une sortie de ce type pourrait permettre à l'Atlético d'engranger une somme importante, de calmer certaines colères et éventuellement de recruter, que ce soit en défense ou en attaque, des joueurs moins chers, mais qui pourraient, c'est un peu dans la logique de ce club qui n'a pas les moyens du Real ou du Barça, d'essayer de grandir en vendant des joueurs très chers et en récupérant des joueurs moins chers et en essayant de calmer aussi la fronde interne.
Le Bayern, dans son histoire, ça serait une première, n'a jamais dépensé plus de 41,5 millions d'euros pour, c'était Tolisso, le transfert le plus cher.
Et encore,
ça serait un changement de politique, parce que 80 millions, ça commence à être une somme assez colossale, donc le Bayern n'a jamais fait ça. Et alors, je ne veux pas ouvrir un débat sur les clauses, mais pourquoi les clubs ne mettent pas des clauses prohibitives? Pourquoi ils ne mettent pas 800
clause,
millions
d'euros? La clause, c'est négocié par rapport au salaire, à l'âge du joueur, ça fait partie de la négociation.
Moi, je te mets une clause, Dominique, que tu mérites à 100 millions.
C'est gentil.
Mais si je te mets une clause à 100 millions, ça veut dire que tu auras des difficultés pour partir, donc tu vas réclamer un salaire extrêmement fort.
Oui, mais Cristiano Ronaldo, il avait une clause à 1 milliard, il est parti pour beaucoup moins à la Juve. Donc ça se négocie aussi une clause.
Ah, ça peut se négocier.
Pourquoi ils mettent pas des clauses fictives à 700 millions d'euros?
Pas le même âge, changement d'air, volonté des deux parties, alors que là, ça semble une volonté unilatérale. Surtout... Sauf si les arguments du chef, et je les entends parfaitement, sont recevables. Mais les arguments du chef, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est entériner le fait d'une régression pour l'Atlético. Et notamment pour son entraîneur, qui voulait faire de l'Atlético, qui veut toujours le club phare.
Il faut avoir les moyens de ses ambitions, et l'Atlético ne les a pas. Il y a même, en raison de son passé et de sa dette, un top salarial qui est déjà atteint, et donc pour pouvoir satisfaire certaines ambitions, il faut dégraisser un peu le mammouth.
Dominique, Jean-Philippe.
L'histoire des clauses, elle a commencé avec le Brésilien Rivaldo qui joue à La Corogne quand il a été transféré à Barcelone. À ce moment-là, le président de La Corogne pensait que jamais la clause, dont je me souviens plus le montant exact, mais qui était en plusieurs centaines de millions de francs à l'époque, et que ça ne serait jamais atteinte. Mais Barcelone l'a mis. Et depuis, ça n'a cessé. C'est-à-dire que quand on négocie une clause, enfin, quand ça se fait en Espagne, c'est interdit en France, mais quand une clause est négociée, on met un montant qui paraît démesuré. Mais le foot business évolue tellement vite que les millions rattrapent les millions, et en très peu de temps, les clauses finalement, ou quand le joueur progresse, finalement deviennent possibles.
Bah, c'est pas une étiquette, la clause, il faut la négocier. Donc,
Mais il a pas envie, elle est impossible à faire sauter, cette clause. Elle est à 650 millions d'euros, je crois. Elle est impossible.
Sauf si un club chinois avec des moyens illimités a décidé de se payer Messi. Et ce jour-là, on dira c'est incroyable. Mais en fait, c'est ce qui se passe depuis 20 ans en réalité.
Ce serait incroyable, effectivement, qu'il aille en Chine.
En tout cas, au Bayern Munich, où est-ce qu'il irait, Lucas, finalement? Est-ce qu'ils ont besoin d'un Lucas actuellement?
Pour moi, aujourd'hui, ils ont besoin de reconstruire, pour le coup. Parce que ils vivent sur leurs acquis, ils commencent à être contestés au plan national.
Comme le Real,
Ils n'y arrivent plus. Oui, mais contrairement au Real, ils n'y arrivent plus sur le plan européen. Et les ambitions.
Soit 9 points de Dortmund en championnat.
Oui, plan domestique, voilà.
Après, c'est pas le poste où ils ont le plus besoin, parce qu'il y a David Alaba qui est très bon.
Oui, mais ils ont besoin, pour moi, le Bayern, ils ont besoin de tout. Là, franchement, c'est un club qui se heurte à un passé glorieux, à des rêves qui sont des rêves encore de la saison dernière, mais qui s'effritent à chaque fois sur le mur adverse. Et là, ils commencent à adopter une réelle politique et ils se disent il faut qu'on fasse des choses, il faut qu'on bouge. C'est pour ça qu'à mon avis, les chiffres de Dominique, ils vont exploser. Sinon, le Bayern n'a plus d'avenir sur le plan européen.
En tout cas, là, c'est très dangereux pour moi de rejoindre le Bayern cette saison, avec les départs annoncés de Ribéry et de Robben, avec Nico Kovac, dont on ne sait pas s'il va rester
entraîneur.
Franchement,
il faut quand même rappeler la nouvelle règle qui est, parce que jusqu'à l'année dernière, s'il partait en cours de saison, il aurait pas pu jouer la Ligue des Champions. Là, il peut.
Oui. Ça va peut-être changer le mercato d'hiver, ça va peut-être le rendre plus avec plus d'affaires. Donc, c'est bon pour le business, c'est bon pour le football, c'est bon pour les agents. Et donc, ils vont se régaler.
Hein. Ouais, en tout cas, il y a plus de rumeurs effectivement autour de ce mercato d'hiver. François David, les Français du côté de l'Espagne, finalement, ont la cote pour être vendus ou pour être achetés.
Ah bah c'est moins qu'on puisse dire. Mais de toute façon, après l'Argentine, je crois que la France est le pays qui exporte le plus de footballeurs. Donc entre la génération championne du monde, là cette nouvelle génération, Griezmann, Lucas Hernandez, Dembélé, Mbappé, tout ça, oui, et Rabiot, ils ont la cote. Mais encore une fois, moi je pense pas qu'il va partir. Je pense qu'il est en train de négocier une prolongation de contrat avec l'assurance peut-être que Godin ou Jiménez partent cet été pour être vraiment installé comme le chef de la défense. La seule chose qui me fait tiquer, c'est qu'on m'a dit il y a quelques heures que l'Atlético recherchait un défenseur central et s'était mis sur un défenseur central peut-être pour juin prochain, ce qui pourrait faire accélérer la cadence. Mais en toute objectivité, je vois plus Lucas Hernandez prolonger son contrat avec l'Atlético que partir, surtout en plein hiver, comme vous l'avez dit, avec un Nico Kovac est contesté, avec un changement de cycle.
On connaît son salaire.
Actuellement, c'est peut-être plus sexy l'Atlético que le Bayern pour lui.
C'est autour de 3 millions d'euros son salaire annuel. Hein.
Donc c'est 250 000 euros.
Ouais, 3 millions nets, et je pense qu'il pourrait monter à 4-5. C'est ce qu'il demande en tout cas à travers son agent.
Merci beaucoup François David d'avoir été en direct de la Catalogne. On suivra les prochains épisodes, alors.
Acheter un réveil à Ousmane Dembélé. Hein. N'oubliez pas d'acheter un réveil à Noël. Hein.
Ouais. C'est la plaisanterie en vogue. Merci beaucoup.
Ouais, très bonne.
C'est Benjamin Mendy et d'autres qui l'ont fait. Juste pour terminer et clore le chapitre, Alphonse Areola a lui prolongé aujourd'hui. Alors, moins d'état d'âme, il reste au Paris Saint-Germain, même si il y a quand même Buffon qui... peut lui faire un peu d'ombre.
Bah, et qui lui fait déjà de l'ombre, hein, parce que dès qu'il a été remis de sa suspension en Ligue des Champions, c'est quand même lui qui a joué les matchs les matchs clés, hein, contre Liverpool et à l'Étoile Rouge. Donc lui, il joue à Orléans, par exemple, à Areola. Bah, pas tout le temps, parce qu'il s'est fait mal au dos. Ouais, mais bon, voilà, il sait que Buffon, il va rester sans doute encore un an, et puis que dans sa carrière...
Disons qu'il y en a un qui a plus d'avenir devant lui que l'autre.
Ouais. Ouais, et puis l'autre n'est pas non plus...
Un gardien donne sa pleine mesure.
Il y a quelques critiques quand même contre...
Oui, et puis, mais bon, Areola peut progresser encore, et puis peut-être à 27-28 ans qu'on devient un grand gardien, donc il a encore du temps. Hmm. C'est pas mal d'apprendre dans le Buffon, il y a pire. Hein.
Pas mal, hein, comme professeur. Allez, on va feuilleter ensemble un livre, et surtout Jean-Philippe va se transformer en conteur d'anecdotes. Vous pourrez l'aider d'ailleurs si vous en avez aussi des anecdotes autour du football, des anecdotes connues ou méconnues. En tout cas, ce livre s'appelle « Le footballeur allergique à la neige » et 365 histoires extraordinaires de football chez Solar. Jean-Philippe Bouchard, en plus, c'est assez amusant ce que vous vous baladez dans le temps. Il y a des anecdotes des années 30, après il y en a des années 2000 et quelques. Il y a aussi un peu sur tous les continents. Alors je sais pas, laquelle aimerait... Peut-être la première, celle qui raconte quand même le titre du livre.
Ouais, bah celle qui débute le livre. Qui lui donne son titre. En fait, elle est pas piquée d'hanneton quand même. Parce que, en fait, ça se passe en Allemagne dans les années 60, et il y a un footballeur brésilien. Il y avait déjà des Brésiliens à l'étranger à cette époque-là qui s'appelait Zezé, et qui après des vacances hivernales, puisqu'il y a une trêve en Allemagne l'hiver, il était rentré au Brésil. Il s'est pas présenté à l'entraînement après les vacances. Et par contre, le club a reçu un certificat médical d'un médecin brésilien, qui excusait le joueur et disait qu'il ne pouvait pas honorer son contrat puisqu'il était allergique à la neige. Et donc, il avait trouvé un médecin assez complaisant pour écrire quand même une chose comme ça.
Il n'y a
ça.
Pas de remède en plus. Hein.
Ben non, voilà, en plus, il n'y avait pas de médicaments.
Ouais. Ça rappelle d'ailleurs la fameuse anecdote que tout le monde connaît sans doute ou que beaucoup racontent de Salif Keita quand il était arrivé à Orly.
Il avait pris un taxi pour...
Qu'il avait pris un taxi pour Saint-Etienne, n'est-ce pas?
Dans le livre,
Quand on débarque et qu'on connaît absolument pas le lieu où on va, quoi, finalement, et ce décalage notamment, ou de contexte ou de saison, quoi.
Bah, il y a ces anecdotes aussi, assez souvent, de joueurs qui pensent être transférés, par exemple, au Bayern, et qui, en fait, sont au Munich 1860, et c'est pas tout à fait pareil.
Il y a Robinho, hein, c'est le football moderne, hein, ça, c'est le football business, qui pense avoir signé à Chelsea, et qui est allé à Manchester City.
Alors, Jean-Philippe, je ne sais pas, une autre histoire que vous auriez... Moi aussi, j'en ai repéré quelques-unes, mais peut-être vous en avez une...
Il y a toutes les histoires des blessures idiotes, quand même, hein, qui sont quand même extraordinaires, parce que là, il y en a dans le livre, il y en a une bonne quinzaine, mais il y en a quelques-unes, quand même, qui veillent le coup de se remémorer. Je pense que vous vous souvenez de Steve Marley ?
Oui,
Voilà. Est-ce que vous vous souvenez qu'il n'a pas disputé l'euro portugais. Il était sélectionné, il n'a pas disputé l'euro parce que en fait il s'est blessé à l'œil assez gravement avec son accréditation. On s'en souvient plus, mais ce genre d'histoire finalement elle marque le foot, quoi. C'est aussi ça qu'on aime dans le foot, parce que
ça rappelle un peu l'histoire de Santiago Cañizares, le gardien de l'équipe d'Espagne qui devait venir à la Coupe du Monde ici en France et qui s'était pété le pied en faisant tomber un flocon de parfum pendant qu'il se rasait. Et voilà.
Il y a une anecdote que vous pourrez mettre dans votre livre, c'est Hervé Penaud, grand chroniqueur sportif et footballistique, qui vient de se casser le bras à Morzine.
C'est les pieds qui nous cassent d'habitude.
À Morzine, et non pas sur une piste bleue, rouge ou verte, mais sur une piste de danse, figurez-vous.
c'est lui.
Donc il doit sortir de l'hôpital ces prochaines heures. C'est pour dire que c'est une belle anecdote. Je pense que ça mériterait une 367e.
C'est de toute façon déjà Hervé en surnomme Patrick Juvet, donc. Non, mais dans le genre les blessures idiotes, il y en a une qui est pas mal. Il y avait un joueur de Barnsley en Angleterre, il s'appelait Darren Barnard, on l'a oublié, mais il s'est pété les ligaments du genou, donc il a mis sa saison complètement en l'air en glissant sur la piste de son chien. C'est quand même
Alors Jean-Philippe, il y en a une que moi j'ai trouvé assez croustillante, elle s'intitule, c'est la 20e, fou de joie, il libère les détenus au Mexique. Alors cette histoire, elle est géniale. 1970, Coupe du Monde au Mexique, et le Mexique va disputer son dernier match de poule face à la Belgique. Et quand les Mexicains marquent enfin, ce qui va les qualifier pour la première fois en huitième de finale, eh bien le gardien d'abord hurle « Viva México !» Mais en plus, il libère, alors c'était un QHS, en plus un quartier de haute sécurité, il va libérer 142 détenus. Et ensuite, évidemment, le Mexique se fait sortir par l'Italie. Lui est jugé par un tribunal local, mais finalement, on lui a reconnu des circonstances atténuantes. On a dit qu'il avait agi sous le coup d'une exaltation exotique et sans doute patriotique. Et du coup, il a pas du tout été embêté par la justice. Pourtant, 142 détenus d'un quartier de haute sécurité au Mexique, ça devait pas être... Alors, il y en a une de Javier Zanetti aussi. C'est la 21. Et je suis sûre qu'elle plairait à Alejandro Valente.
Voyons, entendons ça.
C'est Javier Zanetti, Coupe du Monde 98, en Argentine-Angleterre. Et Zanetti va marquer, ce qui est inattendu. Et il y a un procureur polonais qui est fou de ce joueur et qui devait aller à la mi-temps sortir avec sa voiture et qui se dit « je reste encore un peu devant l'écran et tout ». Et en fait, sa voiture a été piégée. Et il aurait pu mourir. Hein. Et du coup, grâce à Zanetti.
Il a été sauvé par Zanetti.
Il a été sauvé par Zanetti, mais Zanetti a connu l'histoire et a voulu rencontrer ce procureur polonais que lui a sauvé sans le savoir, mais grâce à son but. En plus, c'est vrai qu'un Zanetti qui marque, c'était pas commun. Jean-Philippe,
non,
encore
mais
une?
On en a 366 même. Donc, on pourrait même rester longtemps. Il y a une qui est assez emblématique de la folie que génère le foot en Amérique du Sud. Ça se passe en Colombie en 2011
et jusqu'à la mort.
Et voilà, et il y a en fait un jeune supporter qui meurt et ses copains
17 ans
pour lui rendre hommage emmènent le cercueil au match. Et emmène le cercueil dans les tribunes.
Le jour d'un derby.
C'est fou, quand même.
Il y a certains supporters qui ne voulaient pas rentrer dans le match ce jour-là, mais. Alors, il y en a une qui concerne l'Afrique, et j'ai trouvé assez marrante.
On en a beaucoup sur l'Afrique. Ouais. Notamment la CAN 2008, qui vaut son pesant de cacahuètes.
CAN 2010 aussi, un fameux Angola-Mali. Avec un 4-0 à 15 minutes de la fin, et tout d'un coup les aigles qui se réveillent, et ça donne 4-4 à la fin du match d'ouverture en Angola. Mais il y a celui où il y a Tony Silva qui va faire 8000 km pour rien. Gardien du LOSC, il est convoqué pour un match amical contre l'Angola au Sénégal, et quand il arrive à Dakar, on lui dit, en fait, on a envoyé un fax durant le week-end au LOSC à l'époque, donc évidemment, il a pas su. Et le match se dispute à Rouen.
Ah, c'est bon, ça.
Donc il a fait 8000 km au lieu de 300.
Mais l'histoire de Jean-Philippe me rappelle l'histoire de ce supporter du Bétis qui, après la mort de son père, a continué à payer l'abonnement de son père. Et tous les dimanches, quand il y avait match à domicile, il amenait l'urne contenant les cendres de son père et l'installait sur le siège pour regarder le match avec ça à côté de lui.
Mais c'est très amusant quand on visite le stade du Camp Nou. Autour de la pelouse, il y a une pelouse en fait en plastique pour là où marchent les joueurs et tout ça. Et c'est notamment parce que, comme on peut visiter jusqu'à ces limites-là, il y a des gens qui viennent avec les cendres des passionnés du FC Barcelone et qui veulent pouvoir laisser des cendres sur le bord du terrain et ça abîmer la pelouse. Donc ils se sont dit...
Mais ça se fait de façon officielle dans certains clubs anglais.
Ouais. Voilà. Une dernière, Jean-Philippe? Une dernière pour la route, comme on dit.
On va dire qu'elle est quasi d'actualité. Là, Mourinho vient de se faire virer de Manchester United. Alors, on sait qu'il a son panache blanc, Mourinho. Il fait très attention à sa coiffure. Et ben, il y a un précédent qui s'est passé en 70. Il y avait un entraîneur de Manchester United à l'époque qui s'appelait Wilf McGuinness. Bon, la liste noire n'a pas retenu son nom. mais il avait succédé à Matt Busby, quand même. Voilà. Et il se fait virer au bout de 18 mois parce qu'il était en panne de résultats. Et cette nouvelle-là lui a fait perdre tous ses cheveux en une seule nuit.
Ah ouais.
Voilà. Donc, faut pas que ça arrive à Mourinho.
Bon, ni à nos invités ici dans ce studio. Voilà. Merci beaucoup, messieurs,
merci,
d'avoir participé à ce Radio Foot International. Merci à Laurent Salerno qui était à la réalisation aujourd'hui, fidèlement au poste, et à Louis Lafargue. Et on vous dit à demain pour la dernière de la semaine.